J'aimerais ça qu'on regarde le livre de... Et on va regarder dans Romains chapitre 1er, les versets 1 à 17. Et je vais lire pour vous pour commencer notre rencontre de ce matin. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures et qui concerne son fils né de la postérité de David, selon la chair. Verset 4. Et déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat, pour amener en son nom à l'obéissance de la foi, tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ, à tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Dieu, que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils, m'est témoin que je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin par sa volonté le bonheur d'aller vers vous. Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels, afin que vous soyez affermis, ou plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir, afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations, mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Verset 14. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer l'Évangile à vous qui êtes à Rome, car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. C'est une citation d'Habacuc. Seigneur, bénis ta parole ce matin, bénis ton serviteur, efface-moi et prends ta parole en charge comme tu as l'habitude de le faire. Communique ta parole à ton peuple, parce que les gens ne veulent pas venir ici pour m'écouter. Ils veulent vraiment que tu leur parles comme tu as l'habitude de le faire. Les gens qui sont à distance, ils s'attendent à ce que tu leur donnes une parole de consolation ce matin. Il y a des gens qui écoutent ce matin qui voudraient tout simplement t'entendre toi. Eh bien, tu as cette spécialité-là de t'adresser à ton peuple. Même les gens qui ne veulent pas de toi, tu ouvres leurs oreilles pour qu'ils t'entendent. Ce matin, opère ce miracle-là pour nous dans le nom de Jésus. Amen. Je voudrais commencer par regarder quelques éléments du texte et par la suite, nous aurons l'occasion de faire un petit voyage avec vous dans la dimension pratique de l'Évangile. Ce que j'aimerais surtout couvrir ce matin, c'est quoi l'Évangile? Quels sont les impacts, quels sont les différents enjeux reliés à l'Évangile? Lorsqu'on dit, mais écoute, moi je suis un croyant, mais il y a divers types de croyants, divers croyants qui circulent, il y a divers types de religions. Mais pourquoi moi je suis évangélique? En vertu de quoi? Qu'est-ce qui fait de moi cette fierté, qu'est-ce qui me rend fier? Pourquoi après plusieurs années, je suis encore là-dedans? Paul, serviteur de Jésus-Christ, il se présente. Au départ, je vous dirai le livre de Romains, si on doit faire un petit peu plus le contexte du texte, avant d'entrer d'emblée pour analyser chaque élément. Mais le livre de Romains, en gros, c'est un texte qui a été écrit vers les années 58. Paul l'a écrit juste à la veille de son départ pour la Palestine. Et cette lettre-là a été adressée à une église que Paul n'a pas été fondée. En fait, elle n'a pas été fondée par Paul. Donc, tout simplement, Paul, par son ministère, et on verra après, comme apôtre, comment il était sensible à ce qui se passait dans les églises. Comment il était sensible à chaque conversion, à chaque personne que Dieu a ajoutée à son église, et comment lui, il a compris comme ancien persécuteur, et bien comment Dieu l'a saisi et pour encourager les autres à comprendre que, écoutez, quand je dis que je suis apôtre, ce n'est pas un titre que je m'approprie, ce n'est pas une sorte d'usurpation de titre, mais c'est surtout parce que Dieu lui-même, il a fait appel à moi, alors me connaissant comme persécuteur, alors il est le seul à pouvoir me transformer du jour au lendemain comme ça. Aucune personne ne pouvait m'amener à changer ma façon de faire. Aucune personne ne pouvait m'amener à changer mon paradigme, c'est-à-dire ma façon de voir la vie, ma conception, ma mentalité, mon arrière-plan religieux, mon arrière-plan social, etc., etc. Mais seul Christ pouvait faire ça dans sa vie. Alors, avec cette bénédiction, cette compréhension, cette miséricorde spéciale reçue de Dieu, Paul a un aspect particulier dans sa vie pour l'Évangile. Alors, c'est ce que nous allons voir un peu. Annoncer sa visite à Rome, certains croient que c'est la lettre la plus thématique de Paul, la plus théologique, la plus logique, la plus systématique. Parce que c'est, si vous regardez parmi toutes les lettres qu'il a écrites, la lettre aux Romains est beaucoup plus longue. Et l'autre aspect, cette lettre contient 16 chapitres. Dans les 16 chapitres, c'est divisé, on peut les diviser en deux. Les chapitres 1 à 12, c'est la partie doctrinale. Et dans les parties, quand je parle de doctrine, on parle de la justification, la sanctification, etc., etc., mais surtout la justification. Et vous comprenez que c'est à partir de l'Épître aux Romains qui va nous donner un peu plus tard tout ce qu'on appelle la réforme au XVIe siècle avec les réformateurs Calvin, Jean Hus. Jean Hus, c'est un pré-réformateur. On parle de Jean Calvin, on parle de Luther, etc., etc. Donc, quand on est issu, non seulement chrétiennement, c'est-à-dire spirituellement à partir de Christ, pour parler de l'Église, mais historiquement aussi, lorsqu'on parle de l'apôtre Paul, eh bien l'histoire de l'Église avec les réformateurs qu'on a eu, et jusqu'à aujourd'hui encore, lorsqu'on parle de l'Église réformée, lorsqu'on parle de cette question de la justification par la foi, lorsqu'on parle de la grâce, eh bien on est encore dans l'Épître aux Romains. Mais l'Évangile en tant que tel, c'est toute la Bible. Le cœur de la Bible, c'est l'Évangile. L'Évangile, par définition, c'est la bonne nouvelle. Mais quelle est cette bonne nouvelle-là? C'est que depuis l'Ancien Testament, depuis le début de l'humanité, Dieu commence avec l'Évangile. Dieu créa les cieux et la terre. Intrusion du péché, on vient déranger l'ordre des choses. Dieu nous regarde en fer. Et encore, poussé par amour, on ne peut pas accepter ça. Je ne peux pas voir qu'une partie de moi s'est déchaînée, une partie de moi est en opposition avec moi, une partie de moi est séparée de moi. Dieu intervient encore. C'est quoi l'Évangile? Et l'apôtre a répondu au verset 16, nous le verrons un peu plus tard. Donc, quand je dis c'est divisé en deux parties, donc la deuxième partie, les chapitres 12 à 16, donc 1 à 11 doctrinal, 12 à 16, c'est la partie pratique des choses. L'Église de Christ, c'est comme ça fonctionne, les gens de Rome. On ne peut pas continuer à mener notre vie comme bon nous semble, les nouveaux convertis ont un problème avec les anciens convertis, les gens qui, entre guillemets, qui ont une expérience de conversion. Non, 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 non. Il y a une base. Il faut faire attention. Chaque personne que vous voyez dans l'église, elle a été envoyée par Christ. Tu ne le touches pas. Tu n'imposes pas ton expérience sous prétexte que. Parce que c'est Christ qui unit son église. On parle pour les chrétiens de Rome. C'est la dimension pratique. D'autres disent, mais non, s'ils sont passés au concile, il y a un problème. D'autres parlent de vêtements, d'autres parlent d'aliments. On n'est pas là. Il y a des choses essentielles dans la vie chrétienne. Que Christ est mort, il est ressuscité. Et c'est ça l'essentiel. Après ça, sur le reste, il y a moyen de s'entendre parce que l'Église aurait pu être divisée si l'apôtre Paul n'avait pas un doigté de Christ pour savoir comment manœuvrer à travers tout ça. Parce qu'on te dit, ah oui, mais non, non. Heureusement, il avait eu d'autres expériences avec les chrétiens de Corinthe, les chrétiens de Colosse, beaucoup, beaucoup de problèmes, donc ça lui a donné une certaine assurance pour mener les choses. Mais ce que j'aime dans ce texte, et je termine pour arriver, pour laisser le contexte, c'est le chapitre 16 dans l'Épître aux Romains. J'ai vu en Paul quelqu'un qui est discipliné, une discipline de fer. Quand vous avez tout, quand vous avez un peu de temps, allez lire les chapitres 15 et 16, vous allez voir tous les noms qu'il a cités. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui, en tout cas, je ne pense pas qu'il avait beaucoup de temps de loisirs, ou du moins s'il en avait, c'était vraiment dans ses temps de loisirs, il citait les noms. Et puis, ce que j'aime, c'est les commentaires qu'il fait à côté de chaque nom. Plusieurs noms, là, il y a des groupes, il fait certains commentaires. Oh, mais tu sais, lui, il a, ok, tel, à un moment donné, il donnait tellement de travail à son secrétaire, je crois qu'un certain Titius, en tout cas, au chapitre 16, verset 21 ou 22, où il a fait mention, on voit que le secrétaire de Paul dit, moi, le secrétaire, j'ajoute salutations à une telle aussi, parce qu'il dit, mais il y a tellement de noms à citer, alors si je commence avec tout ce que l'apôtre me dit de faire là, finalement, je n'aurai même pas le temps de dire aux gens, écoute, moi aussi, je vous salue, moi aussi, je... C'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, le genre littéraire en tant que tel, c'est une lettre, donc on parle d'épître, etc. Paul, serviteur de Jésus-Christ. Au départ, il s'affirme, parce qu'il y avait d'autres serviteurs, il y a des gens qui se servent. Il y a des gens qui sont au service des autres, il y a des gens qui sont au service d'eux-mêmes. Mais là, de dire que je suis serviteur du Seigneur, le mot grec signifie par définition, c'est un esclave. Le mot littéralement. Appelé à être apôtre. Donc, ce n'est pas lui qui s'appelle, c'est quelqu'un qui l'appelle. On est appelé par quelqu'un. Maintenant, le mot apôtre. Mais apôtre, on connaît le terme envoyé, tout simplement, c'est bien beau, mais plus bas, je vais vous expliquer quelque chose par rapport à ce terme-là. Il a été mis à part, pourquoi? Pour annoncer l'Évangile. Je suis apôtre, c'est-à-dire un envoyé. Envoyé par qui? Envoyé par celui qui a le message. Parce que si tu t'investis d'un pouvoir, eh bien, il y a quelqu'un qui doit te donner quelque chose. Parce que si c'est toi qui choisis deux, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Parce que tu peux annoncer beaucoup de choses, mais tu n'annonces pas l'essentiel. Pour annoncer l'Évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. L'apôtre est en train de dire aux gens, écoutez, moi qui étais un persécuteur, Christ m'a rencontré sur le chemin de Damas, Actes 9, 15, Actes 13, 12. J'ai un revirement dans ma vie. Maintenant, j'ai changé ce que je faisais. Je ne fais plus le même métier, je n'exerce plus la même profession. Je n'ai plus le même maître. J'ai quelqu'un d'autre qui est supérieur à moi, qui est supérieur à ma religion, qui est supérieur à ma famille, qui est supérieur à ma connaissance, etc. Je me fais esclave de lui pour faire ce que lui, il veut que je fasse. Selon la chair, ici, il vient nous rappeler que Jésus-Christ a une double nature. Je vais un petit peu plus vite parce qu'on a d'autres choses à voir. Parce qu'à l'époque, il y avait des gens toujours qui refusaient d'accepter que Jésus-Christ était 100% homme, 100% divin. Fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat, pour mener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés, etc., par Jésus-Christ. Etc., etc., le texte. Mais c'est intéressant. Mais ce que je voudrais vous rappeler ce matin, ce n'est un secret pour personne. Lorsqu'on lit les écrits de l'apôtre Paul, quasiment toutes ses introductions, dans tous ses échanges avec les églises, il se présente toujours comme serviteur de Christ. Rare fois, il n'en a fait pas mention. Par exemple, dans 1 de Corinthiens, il évoque son titre d'apôtre seulement. C'est fait dans un but bien déterminé. Il précise et définit son rôle pour la présentation et la prédication, soit la présentation ou la prédication de l'Évangile. Il n'y a pas deux missions. Il n'a pas deux rôles. Mon rôle, c'est de voir que l'Évangile soit présenté. Et c'est ce qu'il fait, il a consacré le reste de sa vie à ce ministère. Le mot qu'on traduit par apôtre, c'est vrai que c'est un envoyé. Mais de ce mot dérive un autre mot toujours dans la langue grecque. C'est peut-être deux syllabes qu'on change qui va nous donner le verbe. Le verbe ici, le verbe avec votre permission, c'est apostello qui peut avoir un double sens. C'est envoyer au loin. On peut le traduire par congédier quelqu'un. Mais dans ce contexte, on comprend que l'apôtre Paul n'a pas été congédié et Christ non plus ne l'a pas congédié dans son travail. Donc, on va garder le premier sens dans le sens d'envoyer. Et c'est ce même verbe qu'on va trouver dans les textes lorsque Christ appelle les 12 apôtres. Il les appelle, il les prépare et ensuite il les envoie. Parce qu'on ne peut pas partir si on n'a pas quelque chose à dire. On ne peut pas partir si quelqu'un ne nous mandate pas de partir. On ne peut pas s'improviser croyant si Christ lui-même il n'est pas venu à notre rescousse pour dire « Je t'ai choisi, je te veux avec moi » et en acceptant la volonté de Christ, eh bien par le fait même, on change de profession, on change de paradigme, on le suit. Parce que nous, on a nos intentions, on a nos arrière-plans qui nous fabriquent, on rentre là-dedans, mais si Christ, lui, il vient, il doit faire le ménage pour que son œuvre se fasse. Il y a une mort, c'est-à-dire moi, je dois mourir. Mais c'est Christ qui provoque cette mort-là, c'est-à-dire nos œuvres charnelles, toutes nos œuvres qui nous gardent, qui nous prennent en otage. Dieu a besoin de nous libérer pour que lui, il agisse et que sa parole fasse son œuvre. Autrement, ça va être du scandale. Autrement, ça va être juste des activités. On a l'habitude de faire des activités, surtout dans une société bien organisée. Organiser des activités, c'est aussi simple que ça. Il suffit de lire 2 ou 3 livres ou bien chapitre d'un livre, management, leadership, et puis c'est réglé. Mais avec Christ, ça se passe autrement. Il faut que tu viennes d'abord à mon école, apprends à me connaître, apprends à m'entendre quand je t'appelle, pour ensuite tu comprennes le message exactement que tu dois communiquer à mon peuple. Christ les a choisis, les envoyant un peu plus loin. La définition de l'évangile, on va le saisir. Donc, comme on avait dit, dans les 11 premiers chapitres, l'apôtre a pris le temps vraiment de remettre les points sur les i pour amener les gens à comprendre. Écoutez, ce n'est pas aussi facile. Parce que depuis l'intrusion du péché dans l'humanité, l'homme n'a qu'un but, s'améliorer. A-t-il réellement dit, on t'a donné le privilège d'avoir tout, tout. On ne peut pas compter les privilèges qu'ils avaient, la création toute neuve, les premiers arrivés, les seuls sur le chemin, les seuls dans le royaume. Tout d'un coup, ils entendent une autre voix. Bon, comment se fait-il que vous étiez là depuis bien des temps, tout seul, joyeux, pas de péché, aucun mauvais mot, aucune mauvaise plaisanterie, aucune mauvaise intention. Tout d'un coup, quelqu'un arrive, tu entends une autre voix. Et l'entendant, ça a changé l'ordre des choses, et pourtant, c'était bel et bien dit, sauf. Pourquoi? On a, en quelques instants, on a oublié tous ces privilèges-là avec le mot « sauf ». On va basculer. Ça, c'est la nature humaine. Mais notre Dieu, un Dieu de compassion, un Dieu qui aime sa création, il ne va pas nous laisser comme ça. L'idée de nous améliorer, que l'on parle de Cicéron, que l'on parle d'Aristote, que l'on parle de Socrate, que l'on parle de tous les grands noms que vous connaissez, tout ce qu'on a étudié en philosophie, les gars qui sont au cégep, les filles ici, universitaires, que l'on parle de Platon, Emmanuel Kant plus près de nous. Tous ces hommes-là, Simone de Beauvoir, les autres femmes dans le cercle littéraire, le cercle philosophique, ils avaient une intention, améliorer le sort du genre humain. C'était le but. Toute leur idéologie, toute leur conception, c'était toujours améliorer le sort de l'autre. On peut dire, mais c'était bien. Hein? Mais oui, comme évangélique, on ne peut pas dire quelqu'un qui veut voir un autre, une dimension supérieure dans la vie de quelqu'un, on ne peut pas le rejeter, on ne peut pas être contre ça. Même l'existentialisme, au 19e siècle, vous connaissez un certain Kierkegaard et ses nombreux disciples comme Simone de Beauvoir, comme je disais il y a un instant, Martin Heidegger, les gens qui étudient en théologie, théologie libérale, Albert Camus comme philosophe, tout le monde aime citer, Jean-Paul Sartre, existentialiste, etc., etc. Ils croient que l'être humain peut améliorer son sort. Ils contribuent par leur pensée pour améliorer le sort de l'être humain. Mais savez-vous le problème qu'il s'agisse de ces gens-là, qu'il s'agisse des idéalistes, des philosophes, des politiciens, même certains religieux, ils n'ont pas pu améliorer le sort de l'être humain. Le problème reste entier. Mais si le problème reste entier, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils voulaient donner leur chemise pour que leur idéologie fasse leur chemin, pour que l'être humain soit différent, pour que l'être humain ait une certaine chose. Voilà pourquoi il y a ce qu'on appelle encore des évolutionnistes. Parce que toujours l'idée dans le système éducatif dans plusieurs pays, c'est l'idée d'évolutionniste, parce qu'on veut voir l'être humain s'améliorer. Et les gens, il y a beaucoup de millions qui sont en marche pour que l'être humain, on change la condition de l'être humain. Savez-vous, ils n'ont pas réalisé leur rêve. L'être humain ressentit un pécheur. Et puisque les pécheurs, son problème, ce n'est pas lui, pauvre lui, mais c'est en Adam. Mais il y en a qui disent, mais moi, je n'ai pas connu d'Adam. Justement, c'est pour cette raison, je ne veux pas être créationniste. Parfait. Mais le problème reste. Parce qu'il y a un problème dans le cœur de l'homme. Il y a une seule personne. Comme la Bible dit, l'apôtre Paul va le répéter dans Galates et plusieurs autres textes. Par un seul homme, le péché est venu dans le monde, on l'appelle Adam. Donc, lui qui était tellement bien dans le jardin, il a entendu une autre voix avec le mot sauf, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, que tout touche pas. Mais il avait accès à tout. Eh bien, nous, par association, c'est ça la réalité de l'être humain. Et la Bible propose l'antidote pour le péché, pour l'amélioration de l'homme. Cette fois-ci, pas une amélioration, mais une recréation. C'est que par un seul homme, le péché est venu dans le monde. Par un seul homme, le salut est venu dans le monde. L'ancien Adam, le nouvel Adam qui est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qu'on célèbre, qui nous permet d'être ici ce matin, que ça aille bien, que ça aille mal, que ça aille plus ou moins bien, ça aille plus ou moins mal. On est toujours là, on est tenu. Ce n'est pas parce que nous, on est capable, mais il nous tient dans ses mains. Il nous préserve, il déploie tout un arsenal d'armées pour nous garder en sorte que qu'il soit toujours auprès de nous. Les enfants vont bien, ils vont mal, ça va, la mort, la résurrection. Le Seigneur est toujours là au milieu de nous. Et c'est Christ à concert. Le point commun dans tous ces hommes-là, c'est qu'ils ont une idéologie, ils ont voulu faire avancer, ils ont voulu, effectivement, certains peut-être avaient la bonne volonté. Et vous savez ce qui est désagréable, plus désagréable à force souvent, c'est parce que les disciples parfois sont plus farouches, sont plus fougueux, sont plus désagréables que les maîtres. Et si Dieu pouvait, je sais qu'il est capable de le faire. Des fois, on est tellement, lorsqu'on est, on va dire les choses par leur nom. Lorsqu'on a une idéologie, on est prêt à tout faire pour l'idéologie. C'est comme les gens, les idéologues, là, des fois. Mais je dis, si l'Église pouvait avoir cette puissance, c'est-à-dire en tant que disciple du Seigneur, si on pouvait avoir cette chaleur, si on pouvait avoir ce désir intense, une soif, pour que la parole de Dieu soit prononcée, proclamée, pas seulement du haut de la chair, mais partout où Dieu nous donne l'occasion d'y être et de faire rehausser son nom, eh bien, on serait, je ne dis pas la race humaine serait améliorée, ce serait anti-biblique, mais il y aurait plus de personnes zélées pour continuer à dire « Christ existe ». Il y a des gens qui sont prêts à donner leur vie pour leur idéologie. Mais il faut y croire. Il faut être brave. Il y a des gens qui sont prêts à sacrifier leur famille pour leur idéologie. Il y a des gens qui sont prêts à sacrifier une société. Tranquillement, à travers les téléromans, à travers les films, à travers certains romans. Subtilement, mais sûrement. Tout d'un coup, oh mais c'est normal, mais oui c'est comme ça, mais oui mais toi pourquoi, qu'est-ce que tu penses, mais c'est correct. Ces hommes-là, ils sont tous morts, ils n'ont pas ressuscité. Ils n'ont pas vu la réalisation non plus de leurs rêves. Leurs disciples, parfois plus enthousiastes, plus farouches, malheureusement non plus, suivent la même ligne. Ils n'ont pas vu la réalisation de leurs rêves. L'être humain reste entier, un pécheur. En Adam, nous sommes tous coupables devant Dieu. Notre nature adamique nous impose des conditions, nous faisant croire. C'est une forme d'illusion. Je suis capable, je suis en mes yeux. Ça fait en sorte que nos moments de joie sont de courte durée. C'est la réalité. Tu es content maintenant après ça. Qu'est-ce que tu as, Félix? Je ne sais même pas ce que j'ai. Parce qu'un moment, tu es content après ça. Tu as un petit succès ici, après ça, tu as deux échecs. Tu as trois succès ici, après ça, tu as cinq échecs. Finalement, tu dis, mais là, c'est quoi la vie? Tu essayes, tu dis, ok, j'ai tout fait, voilà, voilà, aujourd'hui tu penses avoir la paix, mais non, semble-t-il qu'il n'y a pas de paix pour les chrétiens, la paix apparente. Mais pourtant, ce serait paradoxal parce que le Christ nous dit, je vous donne la paix. Ça veut donc dire, je ne te donne pas une petite paix juste pour avoir ta maison, payer ta facture. La paix que je te donne va au-delà de payer tes factures. La paix que je te donne, c'est que tout autour de toi, c'est cool, mais j'ai fait quelque chose en toi. Tu gardes la paix, tu gardes la sérénité à travers les épreuves, t'es là. Tes enfants te malmènent, le Seigneur dit, je suis là. Ta femme t'abandonne ou ton mari t'abandonne, le Seigneur dit, je suis là. Tu comprends rien, même toi, tu comprends rien dans ta vie, le Seigneur dit, je suis là. Parce que je m'accroche à toi avant même que toi, tu t'accroches à moi. Je ne t'oublie pas. Et c'est ça le Dieu. Et il y a plusieurs mots dans la langue grecque, mais on n'a pas besoin de les citer parce que c'est juste pour comprendre un petit peu. Un humain qui veut le sort, améliorer le bien-être d'un autre, c'est parce qu'il veut être bien lui en retour. Ça s'appelle l'amour convoitise. Il y a un auteur que j'aime beaucoup, c'est Francisco La Cueva. Lui, il va répertorier 4 types d'amour que je ne vais pas citer le tout ce matin. Mais le premier, c'est vraiment dans Corinthiens 3, 5. C'est bon train de vie qu'on aime mener, vous et moi. Hein. On aime ça. Un amour qui cherche à gagner quelque chose. La personne aime pour avoir. Et c'est ça, parfois, les philosophes, dans leur architecture de voir le monde, ils oublient que si chaque être humain se promène avec un mandat sur sa tête, un mandat d'arrêt, un mandat de condamnation, quand on ne rencontre pas Christ, on a ce mandat-là. Tu ne peux pas vivre en paix même lorsque tu fais semblant d'être en paix, quand tu ne reconnais pas que le Christ est mort, qu'il est ressuscité. Et c'est lui qui est venu vers nous. Le dernier type d'amour qu'il a parlé, c'est vraiment c'est l'amour bienveillant, c'est un amour qui ne cherche pas ses intérêts, qu'on a trouvé dans la parole, et bien c'est cet amour-là que Christ nous témoigne. Cela nous amène à nous pencher vraiment sur la lettre de Paul aux Romains, et surtout, avant de dire, qu'est-ce que l'Évangile? Essayons de voir ce qu'il n'est pas. L'Évangile, justement, n'est pas un système philosophique. L'Évangile n'est pas un courant d'idéologie. L'Évangile n'est pas un système politique. L'Évangile, ce n'est même pas un organisme public ou parapublic. L'Évangile, c'est plus que cela. Pour les gens qui aiment beaucoup la culture, et nous, écoute, on a des références. Ce n'est même pas un patrimoine culturel. Ah non? Mais non. L'Évangile, ce n'est pas un patrimoine culturel. C'est plus que ça. Sinon, tous mes enfants devraient être chrétiens. Tous les gens de ma famille devraient être chrétiens. Ce n'est pas un patrimoine culturel. On aimerait ça. Combien de fois on prie pour nos enfants? On prie, et puis on ne voit rien. Ne vous découragez pas, le Seigneur est encore là. Et ne pensez pas que vous êtes les seuls à prier pour vos enfants. Le Seigneur est encore là, il y a une armée qui prie pour vos enfants. Comment vous le savez? Je vous dis qu'il y a une armée qui prie pour vos enfants. Il y a des gens que le Seigneur réveille pour prier pour vos enfants. Finalement, c'est quoi l'Évangile? Ce n'est même pas un corpus de loi. Tu viens avec ton cahier aujourd'hui. Ah, aujourd'hui, je suis content, j'étais à l'église, réglé. Oups! Toute ma famille est là aujourd'hui, c'est plus que réglé, c'est 4 étoiles. Ce n'est pas ça. Ça aurait été trop simple. Ah, j'ai vu mes amis à l'église aujourd'hui. Non, c'est l'Évangile est plus puissant que ça. Le verset 16 dit, c'est une bonne nouvelle pour le salut de quiconque croit. Ça peut être une bonne nouvelle, mais pas pour toi. Si tu ne crois pas, la bonne nouvelle va être juste quelque chose. Écoutez, et bonne nouvelle, il y en a à longueur de journée. À un moment donné, et je connais une station de télévision ici qui, je ne sais pas pourquoi, à un moment donné, qui dit la bonne nouvelle de la soirée. Mesdames et messieurs, bonsoir, voici le grand titre. Bonne nouvelle du jour. Mais l'Évangile, ça peut être une bonne nouvelle, et puis toi, mais toi, si tu n'es pas là-dedans, comment tu veux comprendre que c'est une bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est pour celui qui croit. Si tu veux participer à cette ambiance de bonne nouvelle, à cette symphonie de bonne nouvelle, à cette orchestration de louange, d'adoration, de dire « Mon Seigneur vit !» Mais il faut que tu entendes, il faut que tu crois. Mais la croyance, ce n'est pas quelque chose qu'on peut transmettre. Ce n'est pas comme la plupart qui croient que lorsque on prend la Sainte Cène, automatiquement Jésus-Christ est venu. Ce n'est pas ça, c'est plus que ça. C'est Christ qui fend les oreilles, il rentre l'Évangile et puis tu n'as pas le choix. Tu dis, Seigneur, eh bien, mais voici. Il l'a fait d'une certaine manière pour l'apôtre Paul. Pour toi, dans un autre contexte, il le fait d'une certaine manière. Pour moi, j'étais très jeune. On me trimballe quasiment comme un petit sac. On me dit, allons prier chez les gens. J'étais jeune, peut-être première année, l'équivalent de 6e secondaire. Tu vas prier chez les gens chaque 5h du matin. J'avais rien compris là-dedans, moi. Du mardi au samedi. Le lundi matin, on était là autant pour entendre les annonces pour la semaine. OK, le mardi matin, on va être chez Tremblay. Mercredi matin, on va être chez les Poléus. Et jeudi matin, on va être chez les Mohamed. Vendredi matin, on va être... Mais le Seigneur est grand! Je ne peux pas oublier ça. J'étais très jeune. J'avais rien compris. Période carnavalesque, t'es là, sur un petit banc, minablement t'es assis, et puis tu vois quelqu'un en avant qui répète les versets. On entend le premier coup, deuxième coup, carnaval, tous les autres jeunes, belle ambiance, mais moi là-dedans, et puis je regarde en plein milieu de Port-au-Prince. Pourquoi le Seigneur m'a épargné? Pourquoi il a fait tout ça? Qui suis-je? J'avais rien compris, c'est pour cette raison. Je dis, s'il vous plaît, les jeunes, venez-y, même si vous ne voyez rien. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Le Seigneur préserve. Le Seigneur garde. Le Seigneur fait provision pour son Église. Parce que, veux pas, peu importe ce qui se passe, il dit, je bâtirai mon Église. Les portes du séjour ne prévaudront point contre elle. Ce n'est pas ma petite tête qui va briser l'Église. Parce que le Seigneur a donné son sang pour que vous et moi, nous soyons ici ce matin. Le Seigneur a investi sa vie, il a purgé de son sang. On ne peut pas prendre ça à la légère. Vous, parents, peut-être vous êtes découragés, vous dites, mais j'ai tout fait. Je me rappelle, cette fin de semaine, on était à Québec et puis j'avais un sujet de prière très préoccupant. J'étais là, on partageait un petit peu. Jeudi soir et puis vendredi matin, je suis arrivé, on est là, tous les frères ont fait tour de table. Et je suis assis à côté d'un frère, comme le protocole exige. Comment ça va? Tu passes une bonne nuit? Oui, ça va. Il y a un autre qui m'a dit non. Mais quand la personne te dit non, qu'est-ce que tu vas répondre? Tu passes une bonne nuit? Non. Ça n'a pas été bien et puis après ça, on n'a pas d'autres questions là. Je me suis tu. Quand le moment est arrivé pour qu'on parte, la réunion se déroulait très bien. On arrive à la fin de la réunion, la fin de la rencontre. Le pasteur est venu, un frère, en tout cas un pasteur d'une cellule ou d'une église. Il m'a dit, Félix, j'ai pas dormi la nuit. J'ai passé la nuit à prier pour ton sujet de prière. Tu me demandes si je suis béni, moi? Quand j'ai regardé dans mon courrier, j'ai vu un autre qui n'était pas là. Il a dit, j'ai cité votre nom, Emeline, dans mes prières. J'ai un autre, il m'a toujours dit, Félix, je prie pour toi chaque jour pour ton travail. Et en passant, l'autre, il n'est pas dans notre assemblée. C'est un prof que j'avais rencontré en théologie qui m'a influencé, qui m'a ouvert beaucoup de portes. Amen. Ce matin, pendant qu'on est là, peut-être il y a une église qui est en train de couper, on est en train de couper le ruban à Toronto. Et j'avais écrit à ce prof-là, parce que je le connais en matière histoire de l'église, pour lui dire, s'il vous plaît, est-ce que vous connaissez des églises francophones en Ontario? Et pendant que j'étais à Québec, et puis j'ai vu ce qu'il m'a envoyé, il m'a dit, ta, peut-être il y a 3 églises francophones, ta, voilà, tel mouvement d'église a essayé. Béni soit l'Éternel, on a une église qui commence là-bas ce matin. Une église francophone, parce que généralement, c'est l'argent de l'Ouest vient ici pour faire avancer la cause de Christ ici au Québec. Le Dieu est le même Dieu. L'évangile, c'est quoi finalement? C'est Jésus-Christ annoncé. C'est la réponse de Dieu à une humanité déchue et sans espérance. C'est Jésus-Christ annoncé et accepté. Je vous disais, dans ma petite enfance, dans ma petite vie d'adolescente, eh bien, non seulement ça, tu devais aller prier chez les gens chaque matin. Ne me demandez pas qu'est-ce que je faisais d'autre. Eh bien, à 8 heures du matin, je devais être en salle de classe. Quelle énergie! Où est-ce que j'avais trouvé cette énergie-là? Toute cette semaine, j'ai réfléchi encore. J'étais dans une église impliquée. Le Seigneur m'a permis de me tenir la main pour faire toutes mes études. Des fois, je dis, pourtant, j'étais à la bibliothèque comme tous les autres élèves, comme tous les autres étudiants ici au Québec. En passant, j'ai même réussi mes cours. À la fin, 4 ans, avec un diplôme en main, les premiers jours à l'université, on te dit, il y a de l'emploi. Pour moi, il n'y en avait pas durant 4 ans, 4 ans et demi, 5 ans. À un moment donné, j'ai voulu même changer mon nom de famille. Mais le Seigneur a fait les choses autrement. Pendant que moi, j'ai mes petits trucs, j'ai des petites réflexions, parfois des petites pensées très bizarres. Le Seigneur dit, me montre que c'est moi qui mène la balle. Toi, tu vas rester tranquille. Et puis, durant ce temps, savez-vous ce que je fais? J'apprenais à connaître mon Dieu. C'est là que j'ai poursuivi mes cours en théologie. J'avais commencé avec un seul cours. Et puis, finalement, un deuxième, un troisième, un quatrième. Je ne sais pas les autres. Je ne suis pas là pour parler de moi. Mais je suis là pour vous dire, le Seigneur est bon. Outre qu'il m'a sauvé, il a changé beaucoup de lois juste pour moi, pour que je sois ici, ici, au Québec, Canada. Le Seigneur a changé une loi juste pour moi. Je suis rentré légalement au Québec à un âge après les études en Haïti. Et il m'a retourné là-bas juste en mission. À chaque fois que j'y vais, j'achète mon billet d'avion, j'arrive. Pendant que je suis sur le site, Seigneur, j'ai rien pour donner aux enfants. J'aime ça quand je voyage pour apporter un petit quelque chose aux enfants. Pas les enfants d'Haïti. Quand j'y vais, si j'ai un petit quelque chose, j'amène, je donne, je distribue dans le village et puis c'est fini. J'ai rien et puis je retourne chez moi. Mais c'est mon habitude, à chaque fois que je voyage, je veux toujours apporter un petit quelque chose pour les enfants. J'ai pas un sou. Et normalement, avec les gens, ils vont faire le marché, les trucs artisanaux haïtiens. Seigneur, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire, mais cette fois-ci, je n'ai pas un sou, parce que moi, j'ai déjà... Mais dans mon fond intérieur, Seigneur, j'aimerais ça. Savez-vous, je n'ai parlé à personne. Ces affaires-là, tu ne les dis à personne. Hein? J'étais sur le terrain un soir, quelqu'un est venu, il m'a donné 10 dollars américains. Je dis, mais non, moi, je suis enseignant. Écoutez, moi, je n'ai pas besoin. Il m'a dit, je te donne 10 dollars. C'est quoi affaire enseignant que tu me racontes là? Je te dis, le Seigneur m'a dit de te donner 10 dollars. Je dis, monsieur, non, je n'ai pas besoin, moi. J'étais choqué en plus. Le Seigneur répond, et puis moi, d'après vous, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé acheter deux petits trucs, je les ai apportés à la maison. Vous savez, c'est tellement secondaire. Aujourd'hui, je vois ces choses-là qui traînent. Les enfants ne savaient même pas c'est quoi. Ils ne savaient même pas le sacrifice qu'il y avait en arrière de ça. À chaque fois, je vois ce petit bébé-là, je le ramasse, je dis, ça a une histoire. Parfois, on se soucie pour des choses qui sont tellement secondaires, de peu d'importance. Et puis le Seigneur, il nous dit, ah non, non, je règle ton cas. C'est fini. Je ne suis pas là pour parler de moi. Jésus-Christ est tout puissant. C'est Jésus-Christ annoncé à accepter l'évangile. Ce n'est pas sans raison que Dieu s'est arrangé pour que sa parole soit préservée minutieusement pour que de génération en génération, chaque personne puisse avoir l'occasion d'entendre en parler de lui. En tant que créateur, son amour est beaucoup plus fort que nos petits désirs personnels. Il ne faut pas que nos problèmes soient plus grands que la grandeur de Dieu pour nous. Parfois, on met nos problèmes au premier plan et on oublie, on se tombe dans une sorte de distraction, on contemple nos problèmes. C'est bizarre, c'est paradoxal. À force d'être imprégné dans nos problèmes, on oublie si Dieu est plus grand que nous, s'il est plus grand que nos problèmes, s'il est plus grand que notre petite assemblée. Dieu n'a pas de frontières. Il n'y a pas de loi qui puisse interdire à Dieu d'agir. Il n'y a pas de petits mouvements qui peuvent arracher nos enfants. C'est une forme de distraction, mais le Seigneur est là. Il veut qu'on se concentre sur lui. Il faut qu'on continue à donner gloire à notre Dieu. Seigneur, peu importe ce qui arrive, je veux te louer pour ce que tu fais. Non seulement tu le fais à travers l'histoire, tu le fais à travers mon assemblée, tu le fais à travers ma vie. Je veux continuer à te contempler, même si ça va mal, mais au moins tu me donnes l'occasion de célébrer ton nom. Et c'est ça notre Dieu, un Dieu qui soutient, un Dieu qui gouverne sa parole, il la gouverne à travers l'histoire, depuis l'Ancien Testament, à travers, on appelle Abraham, mais pour qu'on t'appelle, c'est lui qui t'appelle, il s'arrange pour que tu l'entendes. Le gars, il a pris ses valises, il a tout laissé. Mais entre son appel et la réalisation de ce que Dieu dit, c'est tellement long, c'est tellement les problèmes, les épreuves que ce bonhomme-là a dû rencontrer, il n'est pas le seul. J'ai regardé, des fois, c'est des cycles de 25 ans après. Il y a un épisode, c'est 13 ans après. Tu vas avoir un enfant, mais écoute, tu me dis que tu vas me bénir, mais bénis-moi et ça arrête là. Mais non, il y a des séquences. Il y a des moments, il faut que tu passes du temps, plus de temps avec moi. Il y a des moments, tu n'es plus en mesure de passer du temps avec moi, c'est les autres qui prennent le relais pour toi. Il y a des moments de silence. Exode 14, 14, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. C'est plus fort que vous, on a le sang un petit peu européen des fois, on veut bouger, on veut garder le silence. Seigneur, tu me connais, bien c'est bah, ben arrête. Entends, c'est qui m'appelle, le jeune Samuel. Eh oui, j'ai entendu, non, c'est pas moi. Il retourne, non, c'est pas moi. Parce que c'est la première fois qu'il va vivre l'expérience. C'est comme ça, Dieu. Prenons le temps de passer du temps avec notre Dieu. La deuxième chose, c'est que l'Évangile se manifeste à l'intérieur même de l'amour de Dieu. En d'autres mots, n'importe quelle personne qui entend la parole de Dieu, peu importe les circonstances dans lesquelles elle l'entend, elle a une réponse à donner à Dieu. Peu importe l'endroit, peu importe la personne, elle a le choix. Ou bien la personne doit se prosterner devant Dieu, ou bien elle doit continuer à accuser Dieu. Ma parole ne revient pas à moi sans effet. C'est ce que la parole dit. Béni soit l'Éternel qui a donné du repos à son peuple d'Israël selon toutes ses promesses. De toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par Moïse, son serviteur, aucune n'est restée sans effet. 1 Rois chapitre 8, verset 5, 56. La plus grande réalisation de Jésus-Christ, de sa naissance à son ascension auprès du Père, eh bien, c'est son Église. Il s'arrange de génération en génération pour que l'Église existe. Et si l'Église existe, c'est parce qu'il a mis sa parole dans le cœur d'une personne qui ne la connaissait pas. C'est quoi l'Église? C'est le rassemblement des personnes qui ont été épargnées par le jugement dernier, le jugement messianique. Dieu ne veut pas qu'on subisse le jugement que son Fils a subi. S'il y a une prière qu'on devait faire pour les gens qui ne connaissent pas Christ, c'est de prier pour que le Seigneur leur épargne de ce jugement que le Fils a déjà subi. Ça ne va pas être joli, ça. Réjouissons-nous de ce que le Seigneur nous a épargné, nous, ensuite, pour intercéder pour les autres. L'Évangile, c'est prendre la souffrance des autres. Oh, mais moi, j'ai mes problèmes. Eh bien, si tu as tes problèmes à toi, là, c'est parce qu'il y a un petit problème dans ton problème. C'est que tu as besoin de le déposer au pied du maître pour que tu sois libre pour intercéder pour les autres pendant que ton problème est entre ses mains. Tu laisses ton problème quelque part pour un temps pour que tu puisses intercéder pour les autres. Pour épargner, pour qu'ils soient épargnés de ce jugement. Leur fil, eh bien, on y va plus vite et on termine. Quels sont les avantages à être chrétien? Dieu nous libère de la servitude d'un oppresseur pour nous rapatrier. Quand tu ne connais pas Christ, tu n'es pas dans la patrie. Tu te promènes. Christ doit aller te chercher comme l'enfant prodigue. On n'établit pas domicile dans ce monde. On est de passage, nous, comme croyants. Il fait de nous un peuple. Dieu est tellement bon, il se révèle même à un peuple qui ne veut pas de lui. Un homme de Dieu vient auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, ne me suis-je pas révélé à la maison de ton père lorsqu'ils étaient en Égypte, dans la maison de Pharaon? Troisième chose, Dieu nous permet d'entrer en contact avec lui. Et là-dessus, j'aimerais passer du temps, mais on n'en a pas, on va terminer. Dieu ne va pas changer ses promesses parce que toi, tu as un problème. Est-ce que c'est clair? Sous prétexte qu'on est plus méchant ou plus gentil, « Oh, mais je suis tellement bon devant Dieu, mais pourquoi il me fait ça ?» Un autre va dire, « Oh, mais je sais que c'est parce que je suis méchant. Moi, je sais que c'est parce que je n'ai pas fait. » Les œuvres méritoires, zéro. Dieu n'en veut pas. Ce qui va courber le cœur de Dieu, c'est un cœur obéissant. « Seigneur, me voici, avec ma beauté ou ma laideur, avec ma richesse ou ma pauvreté. Tel que je suis, je me présente devant toi. Toi, tu me connais. Tu veux pas que je fasse mon analogie, ma généalogie, tout mon âme. C'est pas ce qui t'intéresse, parce que tu me connais déjà. Seigneur, tout ce que tu veux que je sois obéissant. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Au lieu de passer du temps dans beaucoup de choses, juste Seigneur, me voici. Je ne suis pas capable. Dieu restaure. Et puis c'est à partir de là, vous allez voir même des choses tellement simples sur lesquelles on se butait, c'est comme les virgules parfois dans des textes là. Hein? Parce que moi, dès que je prends un texte, je regarde tout des fois. Et puis le Seigneur, lui, il dit, ah mais là, ce que toi tu comprends comme un paragraphe, peut-être un texte de 1000 mots à écrire dans toi comme problème, pour Dieu c'est juste un accent aigu. C'est un petit point sur un i. Il résout ça avec tu dis, ah, gloire à Dieu. Et c'est ce Dieu-là qui nous permet d'être ici ce matin. C'est ce Dieu-là que nous célébrons. C'est ce Dieu-là à travers toutes les épreuves, toutes les péripéties qu'on pourrait rencontrer de savoir qu'il tient encore l'exclusivité du salut. Il tient l'exclusivité de la délivrance. Il a quelque chose qui est plus spécial avec nous, c'est qu'il nous prépare pour l'éternité. Vous savez, la vie chrétienne, l'évangile, c'est comme un livre qu'on est en train de lire. Les meilleurs chapitres, pour les bons auteurs, bien sûr, les meilleurs chapitres sont à venir. Tranquillement, il fait le voyage avec nous. Parfois, pour certains, il commence plus tranquillement. Pour d'autres, il commence. Ça dépend de votre tempérament, il nous connaît. Le Seigneur n'a pas besoin que tu t'amuses à dire, oh, mais tu sais, moi, ma famille, etc. Non. Il nous connaît. Il connaît la matière avec laquelle il nous a fabriqués. Donc, quand on va devant lui, c'est juste par obéissance. Seigneur, je viens ce matin juste par obéissance devant toi. Mes chers amis, on termine. Je vous rappelle, nous sommes couverts par le sang de Christ. La beauté de l'évangile, c'est que rien ne peut nous séparer de cet amour, puisqu'on est bien couvert. Ce n'est pas quelque chose qu'on a payé parce qu'on n'aurait jamais l'argent nécessaire pour le faire. Mais lui, il est mieux placé que nous, parce qu'il sait avec quoi il nous a formés, il sait qu'est-ce qu'il a investi en nous, il sait qu'est-ce qu'il a investi dans chaque famille, il sait qu'est-ce qu'il a investi dans chaque personne. Même les gens qui refusent de suivre Christ, Christ a son plan pour eux. Est-ce que ça veut dire pour autant que moi, je ne dois pas continuer à faire ce qu'il me demande? Au contraire, puisque je ne sais pas la liste des gens qu'il a sauvés, eh bien, on doit continuer à servir main dans la main avec nos péripéties ensemble. Dans les moments difficiles, c'est là qu'on doit se donner la main pour dire notre Seigneur est tout puissant. Il ne faut pas se lâcher. Madame, prenez votre mari. Marie, prenez votre femme. Dites en avant. Enfant, tu as plus de zèle. Prenez vos parents. Dites, on y va. On va chercher le Seigneur. Les jeunes, vous n'avez rien compris, mais on persévère, on va ensemble. C'est difficile, oui, mais dans cette église-là, mais oui, tu vas passer toute ta vie dans cette, mais oui, cette église-là. Tu vas dans une autre, ça va être cette église-là. Appelez l'autre dans cette église-là, mais cette église-là. Mais il y a un qui ne vous décevra jamais. C'est le Christ, le Sauveur. Mais nous, comme adultes avec un petit peu de cheveux blancs, j'en avais beaucoup plus, hein, c'est la neige qui a mangé les autres. Des fois, je disais le mariage aussi, mais Emeline est là, hein, attention. Gloire à Dieu. Vous savez, j'ai toujours dit, heureusement le Seigneur, il a compris beaucoup de choses. Il s'est servi de beaucoup de détails pour m'amener aujourd'hui à comprendre que c'est lui qui mène la barque. Des fois, je pense que j'ai un petit peu de sang de latin. Hein? Je veux voir avancer les choses rapidement. Et puis, le Seigneur a fait ça avec ma jeunesse. Je n'ai pas vu passer ma jeunesse parce que j'étais toujours là. Vous cherchez Félix, 18, 19 ans, toujours dans l'église. 20 ans dans l'église, arrivé au Québec à 21 ans, 80, quelque chose, je ne veux pas vous dire l'année, vous allez penser que j'ai 1000 ans. J'ai appris à dormir dans l'église avec un groupe de jeunes garçons pour prier. J'avais une maison là, mais chaque vendredi soir, on était là, tout un groupe de jeunes. On faisait le tour de la ville de Montréal. D'avec ce qu'on faisait, on évangélisait. Mais aujourd'hui, je ne peux pas faire ça, je peux faire autre chose. Mais est-ce que le même Dieu n'est pas là? Où sont les jeunes là? Pourquoi ils partent pas? Moi, on nous a pris un groupe, 6 heures de temps de route, les tap-tap en Haïti, sur le toit du tap-tap. C'est comme sortir ici là pour aller au Saguenay, pour aller plus fort que Saguenay, la baie, aller un petit peu plus loin encore à Dolbo. Des dizaines de jeunes sur le toit d'un tap-tap. Ne me demandez pas qu'est-ce que je faisais là. Je ne comprenais rien, mais j'étais bien. Mais pourquoi, écoute, là, 2 heures de temps ma casa, arrangez-vous, allez-y, même si c'est plate, c'est bizarre, mais vas-y, parce que c'est plate pour toi, ça va être plate pour un autre, 2 plates, ça fait quand même quelque chose.